J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on va bien?
Oui.
Mais moi, j'ai entendu ce matin, on parlait des annonces, des anniversaires, ainsi de suite.
Mais on dirait, c'était froid dans la salle, on dirait, un anniversaire, ce n'est pas un événement.
Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux dont on a parlé de leur anniversaire tantôt? On peut leur féliciter pour dire merci Seigneur, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce un an de vieillissement, parce que d'autres meurent avant ça. Alors si nos frères et nos sœurs sont avec nous, moi je pense que nous devons nous réjouir quand c'est annoncé, nous devons acclamer pour les encourager, que leur présence avec nous nous fait plaisir, qu'on est content de les avoir parmi nous, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, nous sommes le peuple de Dieu. Et dans une famille, quand il y a un anniversaire, je ne pense pas que les gens sont tristes. On est tous contents. Hein? C'est ça. Ce matin, mon thème, vous verrez qu'il n'y a pas de PowerPoint parce que je veux vous forcer à regarder dans vos Bibles. Ce matin, je veux nous forcer à regarder dans nos Bibles. Je veux me forcer moi-même à revenir dans les systèmes avant le PowerPoint. Je ne dis pas qu'on n'en l'utilisera pas, mais j'aimerais qu'on nous regardions dans les Écritures. Ça va? Bien. Alors, ce matin, mon thème, c'est « Souviens-toi ». Souviens-toi. Alors, ce thème-là, lui-même-là, en l'entendant « Souviens-toi », provoque chez nous ou soulève en nous la question « Je dois me souvenir de quoi ?»« Me souvenir de qui ?» N'est-ce pas? Mais j'aimerais ce matin que nous nous souvenions de notre histoire. Notre histoire à chacun. Nous avons une histoire. Habituellement, dans la société, quand on nous demande, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire? On dit, parle-moi de ton histoire. Je suis devenu Guy Leblanc, c'est quoi ton histoire? Alors, je peux demander à chacun de vous ce matin, c'est quoi ton histoire? Mais réponds dans ta tête, si on te posait la question, qu'est-ce que tu dirais? Bon, exemple, moi, Adama Diko, je dirais, je suis un Canadien originaire du Burkina Faso. Alors, je suis un ex-musulman devenu chrétien, et je suis pasteur à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Et je suis marié à une excellente femme, née de nouveau, craignant Dieu, et je travaille au milieu d'un excellent peuple aimant, et ils sont tous parfaits. Je dirais cela. Ça serait mon histoire. Hein?
Wow!
Une église où ça chiole pas, ça pleure pas, ça se plaint pas. Tout le monde est beau, gentil et on marche bien. Amen. Voilà, ça c'est le peuple que moi, ça c'est mon histoire. Bon. C'est bon, ça, il a fait un peu de hyperbole là. Alors, ça, c'est ce que je dirais que c'est mon histoire et que c'est notre histoire. Mais je sais que chacun de nous, nous avons une histoire à raconter et que nos histoires sont différentes les unes des autres. Mais ce matin, je voudrais que nous sachions qu'en dépit de tout ce que nous avons comme histoire, notre histoire s'inscrit dans une autre histoire, une glorieuse histoire, une merveilleuse histoire qui est plus grande que notre histoire personnelle. Et ça, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Amen. L'histoire du peuple de Dieu. Alors, j'aimerais que ce matin, que chacun de nous, nous ne nous voyons pas comme un individu isolé à part. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie d'un groupe. Nous faisons partie d'une communauté. Nous faisons partie d'un clan, d'une tribu. Ça s'appelle la tribu de Jéhovah. C'est pas tellement Jéhovah, c'est Jéhovah. Jéhovah Jiré, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. C'est de ce Dieu-là, c'est de ce peuple-là que nous faisons partie. Et nous avons une histoire à compter, n'est-ce pas? En 2018, on va voir cela. Nous sommes à l'aube de 2018. Ça fait 2 semaines que 2018 a commencé. Alors, comment vous percevez votre histoire? La façon dont vous percevez votre histoire va vous donner de l'espérance pour 2018 ou l'inverse. La façon dont vous voyez votre histoire avec Dieu va vous aider à confronter les difficultés auxquelles vous allez être confrontés et les problèmes que vous allez rencontrer sur votre chemin, tant dans votre foyer, tant dans votre famille, dans votre carrière et dans votre relation avec les frères et sœurs, dans l'église, dans votre ministère. C'est la perception que vous avez de votre mission et de votre histoire qui va vous permettre d'être en bonne relation avec tout le monde ou de ne pas l'être. D'être une femme et un homme de prière ou de ne pas l'être. Parce que notre adoration découle du souvenir que nous avons de Dieu. Amen. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Nous savons que qui d'entre nous connaissent Moïse ici? Combien de personnes connaissent Moïse? Ou avaient entendu parler de la parole de Moïse, de l'histoire de Moïse dans la Bible? Presque tous, hein? Les enfants grandissent avec cela. Savons-nous, Moïse a été appelé au ministère à 80 ans. À l'âge de 80 ans, Moïse est appelé par Dieu pour le servir, pour sortir Israël de l'Égypte. Et à 120 ans, il se trouve à l'entrée de Canaan, le pays promis, le pays qui a été promis à Israël depuis plusieurs années, le pays que Dieu a promis à Abraham, le père de la foi, que plus tard, que lui et sa descendance posséderont Canaan. Et cette promesse-là va se réaliser plusieurs années plus tard. Et Moïse se trouve maintenant, après avoir aidé Israël à sortir de l'Égypte, par des signes glorieux, par des miracles et des prodiges, maintenant à sa vieillesse, à 120 ans, il est encore en forme et il est debout, droit, devant le peuple d'Israël, parce qu'il savait que lui ne franchirait pas le Jourdain. Parce que Dieu le lui avait dit, Moïse, tu ne rentreras pas dans le pays promis. Nous connaissons les raisons pourquoi. Alors j'aimerais que nous sachions que le pays promis n'est pas le paradis. Parce que si c'est le paradis, donc on dira que Moïse n'entre pas. Si Moïse n'entre pas au paradis, je pense que vous aussi, vous n'entrerez pas, moi non plus. Parce que la Bible dit que c'était l'homme le plus humble. Lui, il a parlé face à face avec Dieu. Est-ce que vous avez parlé face à face avec Dieu, vous autres? Non. Donc, Canaan, c'est le lieu de repos pour Israël, de l'Éternel. Mais ce n'est pas le paradis. Donc, on ne peut pas le traduire comme ça. Amen. Alors, Moïse se trouve là, à l'entrée de Canaan, avec une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Pourquoi? Parce que toute l'ancienne génération qui sont sorties de l'Égypte avec Moïse, excepté Josué et Caleb, tout le reste sont morts. À cause de leur rébellion, à cause du fait qu'ils ont raidi leur cou, ils n'ont pas obéi à Dieu pendant ces années, ils sont tous morts. Donc cette nouvelle génération qui va rentrer en possession de Canaan, alors Moïse va s'asseoir en ce moment-là pour les compter, les raconter, les histoires, c'est-à-dire les lois de la parole de Dieu. Il prend Deutéronome. Deutéronome, c'est le livre qui répète la loi, le renouvellement de l'alliance. Et Moïse parle de ça. Parce que quand nous regardons Genèse, nous allons dire Genèse, c'est quoi? C'est le commencement, n'est-ce pas? Exode, c'est quoi? C'est la sortie. Mais Exode, c'est le rachat. C'est la sortie, c'est le rachat. Nombre, c'est quoi? Nombre, c'est l'errance dans le désert. Et Lévitique, c'est les lois et le culte, les sacrifices. Alors, quand nous arrivons à Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Et Moïse répète, et beaucoup de choses reviennent. Tu vas observer les commandements de l'Éternel. Alors, Moïse, sachant qu'il ne rentrerait pas, il expose Israël à tout le passé qu'ils ont vécu. Il les conseille comment ils doivent rentrer dans ce pays, ce qui sera toléré dans ce pays de Canaan et ce qui ne sera pas toléré, ce qu'ils pourraient faire et ce qui n'est pas faisable. Parce que c'est un pays de bonté, de bienveillance de Dieu et de l'abondance, de richesse, tout ce qu'on peut penser. Nous avons souvent entendu nos premiers ministres parler de la côte nord, n'est-ce pas? pour les mines qui vont aller récolter là-bas. On a entendu Jean Charest parler de cela souvent. Mais je vous assure que quand vous lisez Deutéronome, chapitre 8, nous voyons que ce que Dieu dit, la description que Dieu donne de Cana est plus que la côte nord. Moi-même, j'avais envie déjà d'aller là-bas. Alors, donc, c'est dans ce contexte-là que Moïse parle à Israël. Moïse, après avoir servi l'Éternel pendant 40 ans, 40 années du dernier de sa vie, il a mis au service de Dieu. Il a aidé Israël à dominer tous ses ennemis. Il a préparé le peuple pour ce pays-là. Il les a donné toutes les informations nécessaires. Comment gouverner? Comment avoir un culte approprié qui donne gloire à Dieu? Comment marcher dans la crainte de Dieu? Comment vivre dans ce pays-là? De sorte que leur vie soit plaisante, agréable à l'Éternel. Moïse n'est pas n'importe qui, c'était un leader vraiment, un grand leader. Il a préparé le peuple. Comme chacun de nous, dans notre famille ou dans nos foyers, nous sommes des leaders. Les pères de famille, où sont-ils? Comment vous préparez votre peuple? Comment vous préparez votre famille à être une famille agréable à Dieu? À marcher comme Dieu le souhaite. Comment nous préparons notre peuple comme des leaders spirituels, les anciens, les diacres, les diaconesses, le CEA. Où sommes-nous? Comment nous préparons l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine pour être un peuple debout? Un peuple qui avance et les ténèbres reculent. Un peuple qui fait vraiment des merveilles pour la gloire de Dieu. Où sommes-nous? Alors si nous sommes là, est-ce que nous faisons notre job comme il faut? Moi le premier. C'est une question de réflexion. Ce matin, je veux que nous connaissions notre histoire. Ton histoire, c'est quoi? Et Moïse va asseoir Israël pour leur parler leur histoire, pour les amener à comprendre qui ils sont. Vous savez, dans une société, on a deux perspectives, on a deux façons de voir l'histoire. Quand je prends un Canadien anglophone, compter l'histoire du Québec, il a une autre façon de raconter ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand je prends un Québécois francophone et je lui demande de me conter l'histoire du Québec, il va le dire à sa manière et avec son point de vue, n'est-ce pas? Alors, Israël aussi avait sa façon de voir le passé. Et Dieu aussi avait sa façon de voir le passé. Et c'est ce que nous allons regarder dans les Écritures présentement. Ouvrons nos Bibles. Mon premier point que j'appelle dans ce cas-là, nous appelons ça le regard sur le passé. Le regard sur le passé. Nous allons regarder comment Israël regardait le passé. Nous pouvons regarder dans Exode, s'il vous plaît. Exode chapitre 2, à partir de verset 23. Il est écrit ceci. Longtemps après la mort du roi d'Égypte, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement et il vint, il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. Ici, il est question d'Israël. Mais nous prenons la partie au milieu comme ça. Mais sauf que si nous reculons un peu en arrière, comment Israël s'est ramassé en Égypte? Israël s'est trouvé en Égypte parce que Jacob et sa famille sont allés rejoindre leur fils Joseph, qui était premier ministre de l'Égypte, lors d'une famine. Ils se sont ramassés là-bas. Et Jacob va grandir. Et le peuple d'Israël va se multiplier. Donc, comme ils ont immigré l'Égypte, alors la famille grandit tellement que leur expansion fait peur aux Égyptiens. Ils sont tellement qu'ils sont devenus puissants, forts, nombreux. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pharaon va décider, Pharaon va mourir, tous ceux qui connaissaient Joseph. Et quand Joseph va mourir, Jacob est mort, Joseph meurt, et le roi aussi meurt. On dit plusieurs années plus tard, les gens ne connaissaient plus Israël. Ils ne se souviennent même plus de Joseph ni de Jacob. Le roi qui les protégeait, il est mort. Et tout son gouvernement autour de lui, qu'ils étaient là dans le passé, ont tous vieilli. Je ne sais pas s'ils ont écrit ou ils n'écrivaient pas à leur temps. Je ne sais pas, l'écriture ne nous parle pas de cela. Parce que je sais que dans Esther, on dit qu'ils se sont souvenirs. Quand ils ont ouvert l'écriture, ils ont dit « Mardochée avait fait quelque chose pour le roi ». Alors ils ont appelé. Mais là, on ne se souvient plus d'Israël, on ne se souvient plus de Joseph. Alors le peuple d'Israël subit réellement des tortures et il devient esclave et ils sont soumis à des travaux forcés. C'est le contexte dans lequel Israël se trouve. Alors, ils vont crier à Dieu. Dieu va les appeler, il va avoir pitié d'eux, il va aller les sortir. Comment? En suscitant Moïse comme libérateur. Amen. Alors Moïse est suscité comme libérateur pour Israël. Et on continue. Nous allons regarder à partir du Nombre, chapitre 11, s'il vous plaît. Toujours, nous sommes dans le regard sur le passé, le point de vue d'Israël. Comment Israël voit son histoire? Comment Israël compte son histoire? Le point de vue d'Israël. Nombre 11, versets 4 à 6. Il est dit, « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. » Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons et des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, rien. » Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà comment débute réellement une mauvaise compréhension de l'histoire d'Israël. Nous avons vu dans le premier verset que Israël était dans la souffrance. Israël était torturé. Israël crie à Dieu. Dieu envoie un libérateur. Ils sont sortis, à peine sortis de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils disent de l'histoire? Ils disent, quand on leur demandait de conter leur histoire, « C'est quoi votre histoire ?» Nous, quand on était en Égypte, si tu savais, on mangeait des poissons gratuitement. Il y avait des melons. Même il y avait des McDo. Tu étais au courant de ça? Et je pense que tu te souviens, non? Des A&W, on partait là. On mangeait du caviar. Voilà qu'on est sorti de là. Maintenant, nous nous ramassons ici. Il n'y a rien à manger que de la manne. On souffre, on n'a que de la manne à manger. Voilà ce que Israël dirait de son histoire. Et c'est ce qu'il dit de l'Écriture. Honnêtement, je vous demande, est-ce que Israël était dans de bonnes conditions en Égypte? Le peuple d'Israël était dans quelles conditions? Un esclave a-t-il de la volonté? Il marche selon la loi et les pensées de son patron, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il fait. Alors, ce matin, je vous demande, avant que vous ne connaissiez le Seigneur, quelle était votre condition? Quelle était votre histoire? Quelle était mon histoire? Et aujourd'hui, quand tu marches avec Jésus-Christ sous la direction de Dieu, comment tu racontes ton histoire aux gens? Est-ce que tu penses que ton passé sans Dieu était merveilleux, meilleur que celle que la condition que tu as aujourd'hui dans la maison de Dieu? Penses-tu que tes conditions dans le passé étaient meilleures que ça? Alors des fois, quand les chrétiens sont découragés, ils font face à l'épreuve, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, moi-même, quand je ne sais pas pourquoi je suis chrétien, mais ils ne le disent pas souvent, ils le pensent. Je pense que quand j'étais de l'autre côté, c'était mieux. Hein? Je suis chrétien, je souffre, je suis célibataire, je veux une femme, je n'en trouve pas. Aucune femme s'intéresse à moi, aucun homme ne s'intéresse à moi. Mais pendant quand j'étais dans le monde, les filles, ça flyait. Les gars, quand je les souris seulement, elles couraient, ils couraient après moi. Voilà, est-ce que c'est comme ça que vous racontez votre histoire? Notre histoire. Israël voit son histoire différemment. L'histoire d'Israël était biaisée. Quand il regarde, il pense que Dieu était méchant. En écoutant Israël parler comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu, tu ne me traites pas bien. J'étais meilleur de l'autre côté. Avant de venir avec toi, avant que tu viennes nous délivrer là, on était mieux. On n'avait pas de troubles. Depuis qu'on est avec toi, on a des troubles. Qu'est-ce qu'on a comme trouble? On ne mange que de la manne. La manne, c'était quoi à l'époque? C'était des graines qui tombaient après la rosée et les Israël sortait pour ramasser, pour pouvoir prendre soin et manger et piler ou écraser pour faire du pain et manger. Mais tu ne pouvais que ramasser une quantité par jour. Si tu ramassais trop, le lendemain ça pourrissait. C'est seulement le samedi que le peuple avait le droit de ramasser le double de leur ration pour ne pas travailler le samedi et pardon le vendredi qu'ils pouvaient ramasser le double pour ne pas travailler samedi et dimanche ils sont libres pour pouvoir adorer leur Dieu parce qu'ils devaient respecter le sabbat. Mais s'ils ramassaient trop, alors ils perdaient. Sauf excepté le vendredi pour respecter le sabbat, ils pouvaient prendre deux fois. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne s'ils ramassaient de la manne plusieurs quantités? Ça montrait qu'ils voulaient dépendre d'eux-mêmes et non de Dieu. Et le fait que Dieu pourvoyait à leurs besoins avec la manne, Dieu montrait dans le désert qu'ils avaient besoin de lui, qu'ils devaient lui faire confiance. C'est lui qui pourvoyait à leurs besoins. Ils devaient s'attendre à lui dans ces difficultés-là. Mais Israël ne comprenait pas ça avec ses oreilles-là. Voilà ce que Israël dit de son histoire, de son passé. Qu'ils avaient tout et qu'ils vivaient bien. Et que leur histoire était meilleure, que leur condition était meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui. Alors, maintenant, quand nous regardons cela, nous nous posons beaucoup de questions. Et comment je vois ma condition dans la maison de Dieu, comme je l'ai si bien dit tantôt. Maintenant, regardons qu'est-ce que Dieu dit maintenant de la condition d'Israël. Israël vient de nous montrer son histoire. Je n'ai pas tout lu, j'ai pris quelques versets seulement. Vous pourrez faire l'exercice vous-même à la maison et fouiller et regarder plusieurs autres versets. J'ai pris seulement que deux versets pour montrer comment Israël était et comment Dieu est allé le chercher. Il l'a sorti. Mais Israël va être face à des épreuves, à des difficultés pendant le désert. On va regarder ça, le point de vue de Dieu par rapport à ça. L'interprétation d'Israël par rapport au désert, pendant les 40 ans de marche dans le désert, comment ils ont été traités et ce qu'ils ont souffert, les épreuves qu'ils ont connues, les morsures de serpents et de cela, la faim et la soif qu'ils ont connues. Voilà comment eux ils traduisent. Tout ce qu'ils retiennent réellement de leur histoire et de la sortie d'Égypte, c'est que ce n'était pas agréable, c'était mauvais. On aurait dû rester en Égypte que de sortir de là. On résumerait comme ça. Excepté des leaders comme Caleb, Josué, Moïse, qui comprenaient différemment l'histoire comme le point de vue de Dieu. Amen. Alors, nous allons regarder le point de vue de Dieu. Regardons maintenant dans Deutéronome chapitre 8, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 8, je vais le commencer à partir du verset 1. On va regarder. Il dit ceci. Il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour voir quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un père ou comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies et tu le craindras. J'aimerais qu'on nous regardions ce point-là. On va s'arrêter là. Souviens-toi. Souviens-toi de quoi? J'ai parlé tantôt. Mon thème, c'est souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de ton histoire, de notre histoire. Alors maintenant, Moïse qui est à la porte maintenant de l'entrée, il parle à Israël. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, s'adresse à Israël. Dieu va montrer son point de vue, ce que lui pense des 40 années parcourues dans le désert. Et il dit, Israël, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de comment j'ai été présent avec toi pendant que tu étais dans le désert. Souviens-toi de comment j'ai pourvu à tes besoins quand tu étais dans le désert. Souviens-toi de ce que je n'ai manqué à rien dans mon devoir de père et à mon devoir de Dieu auprès de toi. J'ai été constamment là pour toi. J'ai pourvu à tous tes besoins. Alors, c'est ce que l'Éternel dit par le biais de Moïse. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Moïse ordonne à Israël de se souvenir réellement, entièrement, de tout ce que Dieu a fait comme bien pour eux. Quand il te dit « Souviens-toi de tout le chemin parcouru », il n'est pas en train de dire au peuple d'Israël « Souviens-toi de tous les haltes qu'on a vues en chemin ». Ce n'est pas ça. Les haltes routières, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas les restaurants dans lesquels ils ont mangé en route qu'il parle. Non, il parle réellement de comment Dieu a été présent quand ils étaient arrivés, ils avaient soif. Dans le désert, ils avaient soif. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il frappe, il dit Moïse, frappe le rocher. Il frappe le rocher, qu'est-ce qui apparaît? De l'eau. Ils ont bu. Ce qui n'est pas possible tout le temps dans le désert. Quand ils étaient confrontés à des serpents et qu'ils mouraient, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Moïse, présente-moi un serpent d'airain sur le bois. Au lever du soleil, quand le soleil va briller dessus, et tous ceux qui vont regarder et qui ont été mordus par un serpent seront guéris. N'est-ce pas? Dieu a été un médecin pour eux. Il a pourvu à leurs besoins. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que tu as parcouru. Oh Dieu, j'ai été présent. Ils doivent se souvenir de quoi? De la présence de Dieu. Ils ne doivent jamais oublier cela. Dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos épreuves, de quoi est-ce que nous nous souvenons? Nous nous souvenons des douleurs que nous vivons ou nous nous souvenons de la présence de Dieu parmi nous pendant ces moments-là? Quand nous vivons des moments difficiles, à quoi est-ce que nous pensons? Est-ce que nous voyons la main de Dieu? Ou bien nous ne la voyons pas? Nous sommes tellement aveuglés par la douleur, par la souffrance, par l'amertume, par le désir de vouloir être délivré instantanément de la situation, alors qu'on ne voit plus le reste. Mais Dieu dit non. Moi, j'ai une autre version de l'histoire. Vous avez marché avec moi. J'étais avec vous. J'étais devant vous. Quand votre vie était menacée, c'est moi qui a défendu. Quand vos ennemis dressaient des combats contre vous et les rois qui se montaient contre vous, c'est moi qui a dit non. Quand Balaam et Balak ont décidé de te maudire Israël, c'est qui a refusé la malédiction contre toi? C'est moi, l'Éternel, qui a dit non. J'ai fait prophétiser à ce prophète-là qu'on ne peut pas maudire Israël. Et le prophète dit, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, tu es une femme bénite, tu es un frère béni, parce que Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres nations. Alors les souffrances que tu vis, que nous vivons, ne doivent pas nous empêcher de voir la bénédiction de Dieu et d'être continuellement une bénédiction pour les autres nations. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de vous et de moi. Alors, une autre version de ton histoire que tu racontes différemment. Il dit, Israël, pourquoi Dieu t'a fait passer par tout ce chemin? Moïse dit à Israël, Dieu t'a fait passer par tout ce chemin pour t'enseigner. Il t'a humilié. Premièrement, il t'a humilié pour faire révéler ton cœur, pour montrer si tu allais être fidèle ou pas. Si tu allais obéir au commandement de Dieu ou non. Des fois, dans notre marche chrétienne, nous sommes devenus chrétiens. On est nés de nouveau. On est content. Quand nous crions, on répond. Tout ce que nous demandons est répondu rapidement. C'est comme un nouveau bébé qui vient d'arriver au monde. Les parents sont à ses petits soins. Il est traité aux petits oignons. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde là, dans le panier, dans la carrosse pour voir qu'est-ce qui se passe. Même des fois, c'est des caprices que le bébé a. Mais tout le monde va être là pour pouvoir prendre soin. Mais quand le bébé grandit, quand il fait rien, personne ne regarde. Parce qu'on est habitué à lui maintenant. On sait, on connaît ses manies, n'est-ce pas? Alors Israël fait ses manies et Dieu le connaît. Dieu va révéler, sonder son cœur pour voir profondément qui est Israël. Le sonde. Il dit, je t'ai éprouvé. Si toi tu vois le chemin qu'on a parcouru ensemble, tu regardes ce chemin-là, comme si j'ai été méchant avec toi, comme si je n'ai pas été respecté avec toi, j'étais sorti de l'Égypte dans un luxe et je viens te mettre dans la marde, comme on le dit en bon québécois, excusez-moi. Mais est-ce que c'est ce qu'ils voient, leur Dieu? C'est comme ça, c'est ce regard-là qu'ils ont de Dieu qui les a libérés. Dieu dit non, moi j'ai une autre version de l'histoire. C'est que moi quand j'étais sorti de l'Égypte et quand je t'ai fait marcher pendant les 40 ans, c'était pour t'éprouver. Donc le désert était un laboratoire pour Dieu. Et pour éprouver Israël, pour connaître la profondeur de son cœur. Pour voir s'il va obéir ou non. Parce que Dieu va lui donner un pays où coule le lait et le miel. Il ne voudrait pas que n'importe quoi se fasse dans ce pays-là. Alors, il sonde Israël. Il sonde Israël pour voir si Israël va lui faire confiance, va dépendre de lui totalement, va avoir confiance en Dieu et dire que Dieu est bon pour lui et qu'il n'a pas besoin de d'autre chose et que Dieu le suffit. Alors, il le fait souffrir de faim. Comment il l'éprouve? Il dit, on va le faire souffrir de faim. On va lui donner, mettre dans la faim pour voir. Je vous assure, je ne sais pas votre cas, mais moi, mon cas, je le sais. Il y a plusieurs personnes dans l'église et ailleurs, quand ils ont faim, on ne peut plus les parler. N'est-ce pas? Quand ils ont faim, le ventre parle, la bédaine parle plus fort que ses oreilles. Ils n'entendent pas. Et la faim est un moyen pour connaître quelqu'un. Dieu, pour connaître Israël, il le met dans une situation de faim, de soif, de difficulté. Et puis, il va voir comment il va réagir. Tu veux connaître quelqu'un? Regarde-le dans les moments de douleur, de souffrance. Dans les moments de difficulté. Dans les moments de maladie. Comment il réagit? D'autres, quand ils ont faim, là, ils deviennent des chihuahuas. On ne peut plus les parler, hein? Ils ne sont pas touchables. Et quand ils sont malades, c'est pire. Tout s'arrête, tout le monde entier doit arrêter de fonctionner quand eux, ils sont malades. Alors, on voit le caractère de quelqu'un comme ça. Quand j'étais petit, mon papa me disait, il dit, Adama, quand tu vas en visite chez quelqu'un, on te donne de la nourriture à manger. Si vous êtes à table, tu donnes l'occasion au chef de famille de se servir le premier. Habituellement, on va dire, toi, tu es l'invité, on te sert. Tu dis non. Tu dis au chef de famille de se servir. Pourquoi? Tu vas regarder comment il va se servir et tu prendras la moitié de ce que lui a servi. Pour savoir que ça va arriver à tout le monde. Il dit, si tu te sers le premier, tu montreras aux invités à tous qui tu es. Tu vas te révéler. Alors, si tu prends que tu ne penses à personne, on va dire, ben, c'est un gourmand, il pense à personne. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que devant la nourriture, ton vrai caractère de certaines personnes se révèle. Même aujourd'hui encore, n'est-ce pas? Tu peux les connaître qui ils sont face à la nourriture, face à d'autres situations. Donc, soyons prudents. Il montre à Israël, il dit, c'est comme ça que je t'ai testé. J'ai vu qui tu étais. Il dit, non seulement je t'ai fait souffrir de faim, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai pourvu à ton besoin. Je t'ai fait manger de la manne que tu ne connaissais pas, que même tes aïeux ne savaient pas. Je t'ai donné quelque chose. Et la manne, c'est le pain. Et vous allez voir que Jésus-Christ, pour t'apprendre, non seulement je t'ai nourri de la pain, pourquoi il a appris, donné la manne à Israël? Il dit pour t'enseigner, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous allons entendre cette même parole de la bouche de Jésus-Christ dans Matthieu 4:4. Quand Satan le tente dans sa tentation, il dit, si tu es l'homme de fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain, tu vas manger. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors maintenant, ça peut nous révéler la faim spirituelle. Comment est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu? Se nourrir de la parole de Dieu, notre âme a besoin de ça. Notre âme n'a pas besoin de certaines choses, mais elle a besoin de Dieu, de la parole de Dieu, pour se fortifier, pour grandir. Il dit à Israël, quand nous continuons, il dit, je t'ai humilié, j'ai fait tout cela, je t'ai fait souffrir. Et à partir de verset 4, non seulement tu as connu, avant le verset 4, mais je vais arriver, non seulement tu as connu la famine, tu as connu la faim plutôt, mais même au milieu de cette faim-là, j'étais là. Comment Dieu a manifesté sa présence, malgré les épreuves, par la nourriture qu'il a pourvue. Le fait qu'il leur donnait de la manne, Dieu révéla à Israël, non sa fidélité, mais aussi sa présence, qu'il est là et qu'il connaît leurs besoins. Il montre à Israël quoi d'autre? Il dit, dans ton histoire, la marche dans le désert que tu racontes là, je vais te le montrer. Verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, tes pieds ne s'est point enflés pendant ces 40 années. Ah ouais. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait de la mode à ce moment-là? Les Naomi Campbell, est-ce qu'elles existaient en ce moment? Non. Avoir le même linge sur ton dos pendant 40 ans, les mêmes bottines dans tes pieds pendant 40 ans, ça prend du miracle, ça. Parce que moi, je sais que mes souliers s'usent. Moi, je sais que ma femme achète un manteau chaque année. Et je dis, mais l'autre manteau, ça existe encore. Elle dit, ouais, mais ça ne fit pas avec tel sac. Ah ouais, ça ne fit pas avec tel sac. Ah ouais, les gars, vos femmes vous disent ça, non? Ça ne fit pas avec tel sac. Mais c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on les aime. Elles se rendent belles, elles s'embellissent, elles sont belles et on les apprécie. Ça prend un manteau. Ça prend des bottes. Ça prend de l'argent pour aller chez la coiffeuse ou chez le coiffeur pour être beau. Gloire à Dieu, Dieu nous a donné la possibilité de le faire et nos femmes, elles le font. Mais eux, ils ont marché pendant 40 années avec les mêmes lignes sur le dos. Dieu a été fidèle. Dieu dit, regardez là, tu n'as manqué de rien. Toi, tu vois ton histoire comme quelque chose de poche, mais moi, je te montre le revers de cette histoire que tu ne comprends pas. Voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai pourvu à tous tes besoins et tu n'as manqué absolument de rien. Que j'ai fait pour toi. Maintenant, après avoir fait tout cela, Dieu met Israël, il avertit Israël. Verset 10, quand on regarde. Verset 10. Alors, lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il te donne. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu te bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Dieu met Israël en garde contre l'oubli. Israël, sois prudent. Ce que je t'ai dit, tu avais une mauvaise compréhension de ton histoire. Mais maintenant, je t'ai révélé tout cela. Que moi, Dieu, j'ai été juste. Je t'ai fait tout cela pour te sonder, pour savoir qui tu es. Deuxièmement, pour te montrer combien j'ai été présent avec toi. Troisièmement, pour t'enseigner. Quatrièmement, en réalité, pour te montrer ma fidélité et que tu sois, que j'ai été fidèle à l'Alliance. Maintenant, Israël, le pays dans lequel tu vas rentrer, voilà ce que je vais te demander. Quand tu vas être prospère dedans, quand tu vas réussir, une chose que je te demande, s'il te plaît, ne m'oublie pas. En n'oubliant pas l'Éternel, c'est ne pas oublier son histoire. Si Israël veut pas oublier l'Éternel, il doit s'accrocher à son histoire, il doit s'accrocher à la parole de Dieu, la lire jour et nuit. Comme il le dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Israël doit être attaché à la parole de Dieu. Le danger qui nous guette, la fourchette. Quand on est dans l'abondance, dans le confort, et qu'on mange, on s'assoit, on croise les pieds dans un sofa, on commence à oublier l'éternel. Avec une manette dans la main, on zappe de gauche à droite, de chaîne en chaîne. Finalement, on dit, ah, il y a la séance de prière, personne ne vient. On commence à oublier l'éternel. L'abondance, le confort est un danger pour le peuple de Dieu. Je ne dis pas qu'être confortable est un péché. Je ne dis pas qu'être riche est un péché. Parce que Dieu donne la richesse. C'est Dieu qui bénit. Et il bénit Israël avec tout cela. Il ne dit pas que c'est mauvais de leur donner. C'est lui qui le leur donne. Il dit cependant, ne permets pas que ça soit un piège, que ça me remplace moi l'éternel. Que ça t'empêche de t'approcher de moi. Que ça t'empêche de vivre ta foi avec moi. Que ça t'empêche d'être en une relation solide avec moi. Que ça t'empêche d'être ce que je veux faire de toi. Je veux qu'Israël soit une nation qui va influencer toutes les nations du monde. C'est pourquoi je t'amène là. Ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, le confort que Dieu t'a donné, le bien matériel que tu as, le luxe que tu as, tout ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que ce bien-là te détourne de Dieu ou bien ça te rapproche de Dieu? Tout le confort que tu as, quand tu ne peux pas venir à la prière, quand tu ne peux pas t'impliquer dans l'Église, à cause de ce que Dieu t'a donné, tu n'es plus capable de t'impliquer pour son œuvre. Quand ils n'avaient pas de travail, on les voyait tous les jours à l'Église. C'est un pasteur qui le disait, ce n'est pas ici à l'Assemblée chrétienne. Il dit, il venait me voir, « Pasteur, prie pour moi, je n'ai pas de job. Prie pour moi. » Et puis il prie pour lui, il a une job. Il devient un grand patron. Depuis qu'il a la job, il a disparu dans l'église. Tranquillement, il vient un dimanche, deux dimanches par mois, un dimanche par mois. Après, il vient un dimanche tous les trois mois. Puis finalement, on ne le voit plus. Pasteur dit, « Mais pourquoi tu ne viens pas? Je travaille trop. Je travaille trop, il y a trop de travail. Je ne suis pas capable. Excuse-moi, vous devez me comprendre. » Il payait sa dîme quand il n'avait rien. Et maintenant, quand il a eu une grosse job, il travaille bien, il ne paye plus sa dîme. Le pasteur dit, « Peut-être que je vais commencer à prier que Dieu le rend pauvre, qu'il le revient à l'église, ça c'est mieux pour lui. » Parce qu'il est plus proche de Dieu quand il est pauvre que quand il est riche. Est-ce que c'est votre cas? Aimeriez-vous que les anciens se mettent à genoux prier pour vous comme ça? Non, nous on va prier que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'abondance, mais que vous soyez dans sa maison pareil. Amen. C'est ce que nous demandons à l'Éternel. Et l'Éternel met Israël en garde contre toutes ces choses-là. Contre les richesses, contre l'abondance. Et après, il lui dit, verset 14, il dit, « Prends garde à toi, encore, un autre avertissement. Prends garde à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Verset 15, et qui... On va sauter ça parce que le temps me court. On va sauter, on va revenir. On va venir au verset 17, s'il vous plaît. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui avec son alliance qu'il a juré à tes pères. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, quand tu vas avoir la richesse, c'est un piège pour toi. Sois prudent, gère bien. Et ne te détourne pas de moi. La richesse peut être aussi un dieu, une idole dans ta vie qui va te détourner de moi et que tu vas aller vers d'autres dieux. Alors, sois prudent. Quand tout cela sera là, fais attention. Mais au verset 19, qui est le point culminant, si Israël oublie l'Éternel, si malgré tous ces avertissements-là, Israël oublie l'Éternel, qu'est-ce qui arrivera? Verset 19, Benoît Fortin, peux-tu le lire pour moi, s'il te plaît, à haute voix? Verset 19. L'avertissement est fort. C'est un avertissement qui est très fort. si vous m'oubliez, si vous partez voir d'autres dieux, si tout ce que j'ai fait pour vous ne vous a pas permis de demeurer fidèle à moi, à être attaché à moi, moi la vigne, vous êtes les sarments, vous ne vous êtes pas attaché à moi, moi le sceptre. Si vous partez vers d'autres dieux, si vous servez d'autres dieux, que vous m'abandonnez, vous périrez. Vous périrez. Et car la bouche de l'Éternel a parlé. Et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et là, on fait référence à Nombre 19-20, qui nous dit, car l'Éternel n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors il a dit, si on s'éloigne de lui, on périra. Que Dieu nous aide à ne pas s'éloigner de lui. Prions. Seigneur notre Dieu, en 2018, nous voudrons continuer de compter sur toi. En marchant dans la vraie histoire, dans notre histoire avec le peuple de Dieu. Car nous sommes conscients que l'histoire du peuple d'Israël est la nôtre. Et que nous ne sommes pas différents d'eux. Dans le sens que tu nous as appelés à être une bénédiction pour toutes les nations. Et donne-nous de ne pas oublier notre histoire, de nous le rappeler tous les jours, de nous le remémorer tous les jours. Et de marcher dans cette crainte de ton nom et de vivre pleinement pour toi. Protège chacun de nous et fais-nous du bien. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.